c'est bien l'atmosphère.
C'est bien, oui. Ouais.
C'est mieux dans mon idée, c'est mieux.
Est-ce que toi, tu dis quelque chose? OK. Alors, s'il vous plaît, on va donc entreprendre cette première séance. Alors, je vais donner la parole d'abord à, s'il vous plaît, alors à Louise Dupré, donc présidente de cette 38e rencontre.
Alors, souhaiter la bienvenue, mais vous dire aussi qu'il y a un manteau qui est resté hier soir, donc on se verra ensuite. Alors, je vais vous revenir avec
sous ma tête.
Alors, je donne maintenant la parole à Georges Leroux, qui est vice-président de notre académie et qui voudrait vous dire un petit mot.
Alors, chers amis, chers invités, surtout, qui venez d'ailleurs et qui nous faites l'honneur de faire ce grand déplacement, souvent d'Europe, pour être avec nous, je veux, au nom de notre académie, vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette rencontre. Je dirais deux petites choses très brèves. La première, c'est que rien sans doute ne ressemble plus à une académie qu'une rencontre. Les académies sont, pour ainsi dire, par définition, depuis le début de leur histoire ancienne et moderne, des lieux où s'assemblent des personnes qui s'estiment, se respectent et croient avoir quelque chose à apprendre des autres. Et donc, ce ne sont pas par définition de grandes manifestations et rien n'est plus loin d'une académie qu'un festival. Et donc, je suis très, très heureux que l'académie soit, depuis si longtemps, liée avec la Rencontre internationale québécoise des écrivains. C'est un lien qui est intime. Et tous les membres de l'Académie, ceux qui sont présents ici, comme ceux qui ne sont pas avec nous, nous sommes un petit groupe, c'est une petite compagnie amicale d'une quarantaine de poètes, romanciers, philosophes, juristes, historiens. Tout ce groupe, donc, s'associe à moi pour vous souhaiter une très, très belle rencontre, quelque chose de très, très fructueux. J'ose pas dire académique, mais dans le sens où je l'ai dit, ça pourrait être ça. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que je réfléchissais à l'idée que une académie puisse accueillir le futur. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est peut-être... de manière très profonde, doit être pensée. Les académies, traditionnellement, sont centrées sur le passé. Elles ont un mandat de conservation et de protection. Elles regardent la langue comme un trésor qu'elles ne veulent pas trop voir modifié. Elles en codifient l'usage, le sens, les règles. Et elles ont tendance peut-être aussi à faire ça pour la culture. Mais dans le cas présent, le thème de la rencontre a été, et on voit l'image qui vous sert en quelque sorte d'emblème, et déjà qui vous porte à traverser ce pont vers quelque chose qui n'est pas marqué dans l'image et qui est sans doute ce futur qui nous appelle. Alors, je pense que c'est bien que l'Académie vous engage à réfléchir ensemble sur ce thème. Alors, je vous souhaite donc une très, très belle rencontre. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette première séance, ainsi que mon collègue, le secrétaire général de notre académie, Monsieur Corbeil, que je salue. Je remercie, bien sûr, en terminant, Louise Dupré et son équipe, Denise Desautels, Naïm Catan, Pierre Neveu, Hélène Dorion, qui ont rendu possible cette activité qui a une longue histoire dans notre académie et qui, grâce à vous, se poursuit aujourd'hui de la meilleure façon qui soit. Merci. Merci d'être là.
Alors, merci, Georges. Alors donc, selon la formule habituelle, on commence toujours par un exposé d'ouverture qui suit la conférence que nous a donc présentée hier Monique Proulx. Alors, donc, Madeleine Gagnon, ben, je dois vous dire que en voulant présenter Madeleine Gagnon, j'ai eu ce souvenir assez lointain. Bon, l'histoire de la rencontre commence à être un peu longue. On s'approche des 40 ans. Il y a eu des moments forts et sûrement qu'un de ces moments forts, c'est celui qui a eu lieu il y a 35 ans. pas tout à fait 35 ans, parce que les rencontres à l'époque avaient lieu au mois d'octobre, plutôt qu'au printemps. C'était 1975, La femme et l'écriture, sûrement une des rencontres les plus mémorables, au cours de laquelle, justement, Madeleine avait fait une intervention très remarquée, qui s'était transformée en ce qu'on a appelé à l'époque une sorte de happening, en tout cas une intervention à plusieurs voix, où d'autres personnes de ses amis, Denise Boucher, Patricia Nolin, donc, étaient intervenues. Et c'était scandé par cette phrase que j'aime beaucoup, « Je ne veux pas mes textes seuls, je veux d'autres paroles dans mes mots. » Et je dirais qu'en tout cas, qu'il y avait déjà là, sûrement, et si on veut rattacher ça au thème d'aujourd'hui, un futur, qui était le futur de nombreuses prises de parole, qui ont vraiment modifié en profondeur le paysage littéraire québécois, celui des femmes, bien sûr, mais aussi, dans une certaine mesure, celui des hommes. Alors donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir et de l'entendre. Quelques mots de présentation. Madeleine est active dans l'écriture depuis les années 60, en fait. Ses premiers textes, ses premiers poèmes datent de 1964, enfin ceux qui ont été publiés. L'essentiel de son œuvre a été rassemblé dans deux ouvrages. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien son œuvre, alors d'abord une grande rétrospective, publiée en 2007 aux éditions de l'Hexagone, qui à l'ombre des mots, qui rassemble toute son œuvre poétique écrite entre 1964 et 2006, et aussi un choix de poèmes, une anthologie, Le Chant de la Terre, qui avait été publié un petit peu avant, en 2002, avec une préface de Paul Chanel Malenfant. Je dirais que il me semble qu'il y a une double dimension dans cette œuvre. Évidemment, je simplifie beaucoup en disant que Le Chant de la Terre, bon, il y a quand même une appartenance, il y a un enracinement, il y a quelque chose qui dit l'ici de plusieurs manières, de manière méditative, très belle. En même temps, il y a cette ouverture sur le monde, et en particulier le monde des femmes. Je pense à ce très beau livre qui s'appelle « Les femmes et la guerre ». Qui rencontre d'expériences bouleversantes de femmes, surtout notamment au Moyen-Orient, dont Madeleine a recueilli les témoignages et auxquels elle a donné forme d'une manière admirable. Alors, son œuvre a été couronnée par de nombreux prix littéraires, le prix du gouverneur général pour « Chant pour un Québec lointain » en 91. Elle a obtenu aussi le prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre, le prix du Québec donc en 2002, et aussi un prix roumain, le prix Ronald Gasparic en 2008. Alors bien sûr, elle est membre de l'Académie des lettres du Québec, et donc nous allons l'entendre aujourd'hui nous parler de son futur.
Merci. Je pense
que c'est ça. Je crois que c'est ça.
Je pense que c'est mieux. Bonjour à tous. Bon, ben la présentation de Pierre vous dit une chose, c'est que je ne suis plus jeune.
Et, c'était pas l'intention.
même si mon cœur l'est et mon esprit, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Oui, bon. C'est un petit peu le début de mon texte qui ressemble d'ailleurs au début du texte de Monique Proulx. Mais après, ça ne ressemble plus, c'est normal. Je souhaite à tous une bonne journée, deux bonnes journées, en fait, et deux bonnes nuits. À ceux qui viennent de loin et à ceux qui sont proches, mais c'est souvent les mêmes qui viennent de loin et qui nous sont tout proches. J'ai intitulé mon texte « Le futur », tout simplement. Ça m'était donné. La vie, parfois, joue de drôles de tours. En voici un. Un seul qui vaut bien tous les autres. Alors qu'il me reste peu d'avenir, somme toute, on me demande de parler du futur, d'en parler et même d'en discourir. Alors que l'espace de la fin de mon temps à l'horizon se rétrécit, le pire, c'est que j'acquiesce à la proposition. Le plus curieux, c'est que j'ai dit oui spontanément à l'invitation. Le meilleur, c'est que je n'ai pas eu peur. J'ai dit oui comme on traverse la rue au feu vert. Causer du futur me semblait aller de soi, ayant vécu pas mal de futurs dans mon passé, étant riche, comme tout un chacun au passé vaste, riche de futurs antérieurs, et pouvant dire dans le présent calme, j'aurais aimé j'aurais enfanté, j'aurais eu, j'aurais su, j'aurais pu, j'aurais été bien sûr. Et fixant le large de la vie sans broncher ou presque, dire maintenant je suis. Le dire avec certitude, car dire je serai n'est jamais évident. Seul le présent, tel un cadeau, donne l'assurance infaillible d'être là. Mais dès que j'ai dit je suis, c'est déjà du passé. Dès la phrase terminée, le présent disparaît à tout bout de champ. On peut dire au bout du chant qui chante, quand la parole s'absente, je veux dire la parole des philosophies, des religions et des sciences qui perdent tous leurs mots discursifs et donnent leur langue au chat, c'est-à-dire à la danse et à la musique, quand se dresse le mur infranchissable en mots et intraduisible de la mort. C'est ici, au seuil de cette impossibilité, que point le rêve de l'écriture, des mémoires pour le passé, du journal pour le présent et de l'agenda pour le futur. Pour chacun de ces temps, l'écriture désordonne la transcription. Prend place immédiatement ce que l'on nomme communément fiction, place du rêve, de son ouverture immense déjouant tout jusqu'à la ligne d'horizon, sautant en un bond par-dessus, sans borne, disant impulsivement oui à l'agenda du futur qui deviendra un jour, dans un présent devenu matière pour les études du passé, ses mémoires ou ces autobiographies que l'on s'est mis à écrire dans toutes les civilisations et sous toutes les latitudes pour survivre tout simplement. Survivre, se survenir, venir encore après soi, après le futur en aller, être encore présent. Car survivre est l'équipage du futur, pourvu d'un coffre imaginaire rempli de trésors. Ainsi, quand on imagine s'en aller en chantant ou en dansant sur la frontière définitive, celle-ci devient multiple. On dirait une portée de notes, qu'elle soit majeure ou mineure. On dirait la naissance d'une polyphonie. On figure les quatre points cardinaux visibles simultanément, on n'en revient pas. En cet état, le passé n'est pas l'ennemi du futur. Le coffre à trésors fait partie des bagages. On a apporté l'essentiel, on s'est délesté des nuisances. On ne jette pas le passé par-dessus bord, on le prend, analyse, suppute ou contemple, la passion de la mémoire est conservée, le désir d'archives intactes, le futur aux mille promesses, on n'y adhère pas en symbiose. La fusion avec le futur, que celui-ci soit la terre promise ou encore ce numérique d'aujourd'hui qui sera, comme les autres, amas de signes à déchiffrer demain. La fusion au futur et le rejet du reste passé-présent emmêlé ne fera toujours que des orphelins du sens, orientation et signification perdues, sujet divagué ne sachant vers quoi rêver, ainsi privé des mille et une nuits de rêve, des mille et un jour d'histoire d'où ils sont venus. Ne tuons pas la mémoire de l'écorce, du calame, du stylet ou des plumes. Ne reléguons pas la mémoire de l'arbre, des papyrus et des parchemins. Ne faisons pas tabula rasa de nos merveilles. Cessons d'imaginer l'assassinat du futur par le passé ou le présent étouffant. Fini l'assassinat du présent et du futur à coups redoublés de passé, comme le déclaraient les jeunes artistes de refus global qui, après tout, et avec leur mérite de peintres fabuleux, n'ont pas écrit l'évangile des temps nouveaux sur lequel certains auraient tendance à fonder une religion nouvelle. Les symbioses avec le futur, se conjuguant aux haines de la mémoire et de ses souvenances, ont toujours causé dans l'histoire d'incommensurables pertes de sens et des cultures avortées. Toutes les cultures qui se sont adonnées aux autodafés iconoclastes sont mortes à plus ou moins brève échéance. Nous en reste des spécimens que les archéologues s'en iront déterrer, les liront, nous redonnant à rêver ce que nous pourrions imaginer et comprendre pour que le futur qui se dessine dans ces traces nous enseigne et encore nous reconstitue. Toute avant-garde amnésique fait du présent une prison pour ces condamnés privés de futur. Passé le hors-temps de l'infinitif, quand le bond outre-frontière a eu lieu, quand tous les temps à la ligne d'horizon se sont épousés et que, clignotante, la mort est entrevue, quand les naissances souvenues entrent en état de danse sur la borne mouvante et polymorphe, on n'en revient tout simplement pas. Dans cet étonnement, pas besoin de gourou, peintre ou prêtre ou même écrivain. Pas besoin. On n'en revient pas, la tombe ou l'ombre. On est dans le futur qui s'est évanoui, emportant dans son ultime enjambée tous les temps, du subjonctif au conditionnel. Cet état ne pose plus de conditions, de l'impératif, rien ne donne plus d'ordre en ce lieu, de l'imparfait qui restera dans les écrits du passé, avec le passé simple ou composé. Seul demeurera l'infinitif, ce temps énigmatique qui convient au soubresaut. Ce temps qui ne se décline pas et qui s'ajuste à la démesure du temps. Ce temps qui se passe des personnes de la conjugaison. On peut dire que l'infinitif est seul et qu'il clôt en quelque sorte la temporalité. Il se déjoue de la grammaire des temps. C'est un contrevenant, un hors-la-loi, un hors-temps. Il convient à la non-pensée du temps, à l'impensable du temps. C'est là que me déporte le futur. Avant de traverser innocemment la rue au feu vert, je ne savais pas ce qui m'attendait. Ainsi va l'écriture. On ne sait jamais ce qui arrive de l'autre côté de la rue, ou du pont, ou de la page, ou même de la ligne. L'écriture, telle que je l'entends, car je l'entends, est comme la vie. Avec la vie, on ne sait jamais non plus ce qu'il y a de l'autre côté. Mais y a-t-il seulement un autre côté ? Habitués que nous étions à penser le futur ultimement comme ce qui arrive après, après le présent, après la vie en quelque sorte. Habitués à concevoir le futur du côté de ce que nous nommons éternité, avançant lentement vers notre propre fin, il devient urgent de se désenclaver, d'écrire l'impensable, et de redonner enfin aux rêves ses prérogatives. Ses prérogatives et ses droits au sens où le saisissait Bachelard dans le droit de rêver. Le futur est le temps du rêve après avoir vu le hors-temps de l'infinitif. Rêvons, alors. Je rêve. Mais revenu hier, après l'écriture de la dernière phrase « Je rêve », ce souvenir qui s'était tenu dans l'ombre ces dernières années, mais qui était néanmoins présent en moi, comme l'est l'écran d'un film quand la lumière est fermée. C'était il y a pas mal de temps. J'étais jeune. Je veux dire beaucoup plus jeune que maintenant. Je faisais un long voyage en train. Cet océan limité si long et qui va si loin d'Halifax à Montréal et après encore jusqu'à Vancouver. Mais ma destination était Montréal et j'étais partie de Moncton. On dort et on mange dans ces longs trains. On lit et on rêve, on écrit peut-être. J'adore les voyages en train et depuis toujours. Depuis que je les entendais passer plusieurs fois par jour sur la voie ferrée toute proche de ma maison et que de ma chambre j'entendais petite les rythmes de blues et de country jusqu'à mon lit de nuit sur l'oreiller des rails. J'aimais les trains depuis que je n'avais aucun futur en tête, sauf peut-être la veille du premier jour d'école où la fièvre de l'inconnu bousculait les instants ou encore la veille de Noël parce que les cadeaux du lendemain. Cette fois-là, après une nuit de sommeil agité, comme toujours sur les couchettes du train, je me trouvais au petit déjeuner du wagon-restaurant devant un jeune homme tendre et beau et qui visiblement voulait engager la conversation. Nous avons parlé toute la matinée. Nos bribes d'entretien, entrecoupées des dérives à la fenêtre dans la contemplation de ce dehors de neige et de dessins rose-orangés du soleil brillant dessus parmi les plaques d'ombre mouvantes. Nous lisions les traces des nuages ou des arbres comme si rien n'importait plus sur la terre que ces enseignements. Ce jeune homme était sensible au paysage, un artiste du regard, ce qui est bien rare à cet âge. Je n'ai jamais écrit son prénom, pas plus hier qu'aujourd'hui. Il me parlait autant dans ses silences que dans ses mots. Soudain, au détour d'une pause, il me dit « Je n'ai plus de futur ». Bien évidemment, face à ce jeune si beau, intelligent et charmant, je demandais en douceur des explications. J'avais devant moi l'image de la vie devant soi, si je puis dire, et cette vie-là me disait « Je n'ai plus de futur ». Nous avons parlé encore longuement. Son leitmotiv « Je n'ai plus de futur » revenait à chaque tournant. Pourtant, il souriait, n'avait l'air ni déprimé ni désabusé. Je me souviens m'être dit que j'avais face à moi un poète, un vrai, qui jouait avec les mots comme on joue avec les dés au hasard dispersés. Il me quitta un instant pour aller chercher des photos dans ses bagages. Me dit-il. Il désirait me montrer des photos. Puis le train s'arrêta, de longues minutes. Il y eut du mouvement dans les wagons, des cris et des courses folles du personnel. Je n'étais inquiète de rien. J'attendais les photos de mon jeune ami et regardais les collines inclinées au loin. Je voyais aussi à ma droite un lac que je n'oublierai jamais. Mon jeune homme s'était jeté en bas du train. C'est ce qu'on finit par nous dire. Il était mort. L'entretien interrompu fut soudain tout effacé. D'un coup, tout effacé. Ce qui avait été dit et pensé entre nous deux entrait pour un temps bref qui sembla une éternité dans la noirceur absolue du non-sens. Il y eut comme un goût de désastre dans ma bouche de cendre. Il y eut comme un avortement de mots. Dans ce fracas silencieux, je ne pouvais imaginer un avenir de mots et de paroles, ni rêver un futur, comme cela se fait toujours d'une bouche à l'autre, quand de la vie se met à l'œuvre de parler. Mon beau jeune homme du train était devenu ce non-futur qu'il m'avait annoncé. Le sort en était jeté. Futur pulvérisé. Avant cette fin brusque, il fallait donc qu'il ait cessé de rêver. Un jour ou une nuit, mon compagnon de voyage avait cessé de rêver. N'avait pu concevoir Sisyphe heureux. Vous vous imaginez, m'avait-il dit, rêveur, Camus parle du droit au bonheur. Il répétait droit au bonheur et retournait au paysage du dehors que la vitesse du train avalait. Et moi, je n'avais pas saisi dans ses mi-dires son désir de mort. J'avais cru ses silences éloquents, porteurs de poésie, et n'avais pas compris qu'il habitait le mutisme. Le mutisme est le trou noir de la pensée, alors que le silence est toujours peuplé. Je n'avais pas su. Ni compris pourquoi ce jeune homme avait choisi de me confier ses dernières pensées. Ne le saurai jamais. En quittant la vie si brutalement, il m'enlevait en tout cas un morceau de futur, puisque cette histoire me demeurerait à jamais close, sans avenir aucun. Elle serait du passé pour toujours. Elle n'avait été irrémédiablement qu'une parcelle de présent. Par elle, j'avais été frôlée par le non-bonheur. Et loin au creux de ma chair, s'était échoué un tatouage gravé au feu d'un non-lieu d'humanité. J'imaginerais un Sisyphe heureux, sans doute, mais toujours ébréché. Cette histoire n'avait été qu'une parcelle de présent enfouie dans un passé lointain sous les rails d'un train. Son seul avenir en était dans l'écriture d'un jour. Celle d'aujourd'hui, qui ne se savait pas avant de traverser la rue au feu vert. Cette histoire n'appartenait qu'à l'écriture au futur insoupçonné. Le futur est l'histoire de l'écriture. L'écriture chargée de passé est l'histoire du futur, quel que soit le support sur lequel elle se déploiera, écorce de bouleau, papyrus, papier parcheminé enluminé ou encore support numérique ou électronique. Ces moyens sont aléatoires. Ce qui compte, c'est ce qui se dira un jour et viendra donner sens et vérité au monde. Sens et vérité et beauté. Les années passèrent et les années passèrent. D'autres trains furent embarqués, puis des bateaux, des avions, des promenades à pied, en auto, à bicyclette, en ski ou en raquette. Des changements de maison, de pays, mais toujours demeurerait cette incomplétude d'une vie sans futur imaginé, d'une vie au futur assassiné. Et pourtant, jamais je ne désespérerai du droit de rêver. Souvent, je fus ailleurs qu'ici. Souvent, j'eus besoin d'être loin. J'ai aimé me déplacer vite et maintes fois vers des lieux vastes et lents où règnent les silences nus, les silences peuplés, les silences remplis des signes à écrire où le futur s'imagine phrase ou paragraphe ou livre entier, quand la musique du monde pulvérise les chants de malheur, invente des enfants qui ne courront plus jamais à leur perte, plus jamais. Il m'a donc fallu, ce jour-là, remplir de mots ce vide, imaginer derrière la mince ligne d'horizon muette, œuvrer sur le terrain même de l'absence, sans aucune prière, avec l'intemporelle foi qui déplace les montagnes et laisse à son destin opaque un corps jeté du train. À ce prix, l'espoir, à ce pacte, un futur vers lequel, malgré tout, je me suis engagée. Puisqu'il a bien fallu que reparte le train. En toute chose, écrivait La Fontaine, il faut considérer la fin. Pour bien la comprendre, il faut savoir considérer sa fin. La fin comme finalité, mais aussi la fin comme finitude. Est-ce ainsi que je poursuivrai mes rêves désormais? Imaginez après le vide d'absence de la ligne muette que je me débrouillerai comme je peux, comme si, muni d'un passé éloquent en train de s'écrire, je devais avancer dans quelques déserts de neige ou de sable, me porter vers l'oasis, le dos chargé de ma maison, de la cave jusqu'aux lucarnes du grenier, ou encore, comme si je portais tout mon barda dans les neiges infinies de quelques Nunavik aveugles, et que mon corps devenait ce traîneau d'esquimaux risquant à chaque avancée la glissade et l'écrasement sur les glaces coupantes, lèvres fendues, yeux aveuglés de lumière crue, et cherchant mille objets éparpillés partout dans la chute, pense-t-on à l'avenir en de telles circonstances? Comme cet avenir que je soutins deux fois au fond de mes entrailles, portant deux fois un futur en chair et en os, un futur en train de vivre puis de naître, vous imaginez-vous? Un futur que l'on crée en soi et qui vous laisse souvent sans voix, sans mots, dans ce silence nourri jusqu'à ras-bord de l'enfantement, en cette chose, peut-on considérer la fin? Mieux vaudrait mourir, n'est-ce pas? Ou bien, rebrousser chemin, revenir au point de départ, retraverser la rue au feu vert, car il y a toujours des feux verts, même dans le désert, à l'horizon de l'aube, il y a le rayon vert qui vous dit de passer cette autre journée. Et de retraverser ligne ou paragraphe ou livre entier ou poème qui vient de s'allumer quand crépitent les braises, les étincelles du prochain repas, de la prochaine béquée, bouche goulue sur le sein, débordante de futurs sucrés, à n'en plus finir jamais. Oui, retraverser la passerelle de l'enfance, donner sa langue au chant, s'habiller de futur jusqu'à la fin. Oui, pour cette chose qu'est la vie, en bien considérer la fin. Fin du monde, peut-être. Fin de la planète Terre, peut-être aussi. Fin de moi, certainement. Fin de moi-même, sujet de ma propre histoire, pour dire comme Montaigne. Celle qui s'écrit ces récentes années et qui a pour nom autobiographie ou autofiction, c'est pareil, qui s'écrit avec ses failles et ses emportements, qui s'écrit, qui s'écrira avec sa mémoire trouée d'oubli et sa parole d'écriture, qui ne veut rien trahir de ce qui aime et surtout pas soi, et qui lance les dés, encore une fois, on verra bien, puisque depuis de nombreuses années, le sort en est jeté. Merci.
Alors, merci Madeleine pour cette ouverture. Je pense qu'on peut dire qu'elle est bouleversante et qu'en même temps, elle ouvre à beaucoup de réflexions, beaucoup de méditations entre cette mort du futur dont tu as été témoin, mais aussi sa relance autrement à travers l'infinitif, que j'ai une réflexion que j'aime beaucoup, ce hors-temps, qui nous permet peut-être de concevoir un autre futur. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des commentaires. On a amplement de temps. On a jusqu'à 11h45 au moins, donc 50 minutes pour peut-être...
Alors, moi, je veux juste te remercier beaucoup. Bienvenue. Non, mais c'est un déplacement aussi... C'est là où on voit qu'effectivement, ces temps-là sont des temps aussi fictionnels d'une vie, même si ce sont des temps vécus, mais ce sont des temps de vérité aussi qui sont des plus... qui portent vraiment cette écriture et ton histoire. C'est vraiment très beau.
Tu as utilisé un mot, c'est un mot qui appartient à un long bagage littéraire, le rêve, simplement, le rêve. Tu nous fais assister quand même, bon, à la fin d'un rêve, dans ce jeune homme, qui a une absence de rêve, sans doute. Et en même temps, c'est un mot que tu réactives, et j'aimerais ça peut-être t'entendre plus là-dessus. Qu'est-ce que tu mets dans ce mot rêve? Qu'est-ce que tu...
Dans le mot rêve, il y a beaucoup. Il y a... Dans l'écriture, il y a le rêve. Et puis, j'ai eu un exemple concret du rêve issu qui germe dans l'écriture, parce qu'en commençant mon texte, avant de traverser la rue au feu vert, etc., je ne savais pas que cette histoire surgirait. Je l'ai su... Je l'ai su après un rêve. Mais là, je ne raconterai pas mon rêve de nuit, parce qu'on n'est pas ici pour ça, mais... J'étais dans le texte, dans la réflexion sur les temps du verbe. Mais ça a été d'abord la première piste. Parce qu'au début, comme vous tous qui avez à faire une communication, j'étais plutôt dans le noir. Comment parler du futur? Bon, ça a commencé comme ça. Quand il m'en reste si peu. Et puis je me disais, bon, finalement, je n'ai pas passé 8 pages à dire comment parler du futur. Et puis la nuit, j'ai rêvé à quelque chose qui m'a amené. Donc, c'est rêve de nuit, mais c'est aussi rêve de jour contenu dans l'écriture pour moi. Le lieu privilégié du rêve pour moi est l'écriture. Et donc, le rêve de nuit que je ne raconterai pas, ça c'est dans ailleurs, dans un autre texte, puis je ne veux même pas le dire. Ici... m'a conduite à cette histoire du jeune homme qui était pas mort.
L'avais-tu oublié?
C'était, comme dit le texte, c'était comme un film. L'écran est toujours là, mais les lumières sont fermées. Donc, puis ce sont des expériences qu'on a souvent et qui nous sont révélées par les rêves de nuit, ou encore quand on écrit vraiment. Je veux dire, quand on écrit. Donc, pour moi, le rêve, c'est beaucoup. La possibilité de rêver la vie, vous devez, comme vous écrivez tous, vous le savez, L'écriture vient en rêvant la nuit ou en rêvant le jour, en marchant. On écrit en marchant, souvent, en se promenant. C'est en aimant aussi qu'on rêve le mieux, ou c'est en rêvant qu'on aime le mieux. Pour moi, le rêve. Si ça avait été le rêve, j'aurais écrit un autre texte, bien sûr. Mais je pourrais en parler longtemps du rêve. C'est central. C'est pour ça que j'ai tellement aimé la lecture de Bachelard. Et de ça fait longtemps, là. Je m'en souviens plus de tout. Mais ce que je retiens surtout de lui, c'est le droit de rêver.
Bachelard adorait les poètes.
Aussi. Le rêve, oui. Là, j'avais un flash, puis je l'ai perdu.
Denise Desautels.
Je voulais aussi, Madeleine, te remercier beaucoup pour ce texte. Je trouve que tu as demandé de parler de tout qui sont à la fin. Tout à l'heure, oui. Tu as dit dans le texte. Et ce que j'aime, c'est toutes les strates, ta façon d'entrecroiser ou de faire vivre tous les niveaux en même temps, une fois la vie. Cette mémoire qui te revient tout à coup et tu nous livres cette mémoire intime, mais tu la fais passer dans un texte où la réflexion est là, où le langage, la langue elle-même, l'écriture, permet même à se souvenir d'avoir une ouverture autre. Et donc, c'est très sage là qui me semble intéressant dans ton texte et qui nous rappelle complètement comment tu travailles en écriture. En fait, c'est un pur texte d'écrivaine, en fait.
Mais en fait, c'est que, oui, t'as raison, moi je suis en train d'écrire mon autobiographie. S'il y a quelque chose qui fait quétaine, comme on dit au Québec, c'est d'écrire une autobiographie. Bon, et puis j'arrête pas de me censurer, mais je continue quand même. Ou l'autofiction, parce qu'il y a toutes sortes de débats, on dit c'est pas pareil. Ben moi je dis arrêtons de couper les cheveux en quatre, c'est pareil pour moi. Parce que dans toute autobiographie, vous le savez, on est en plein dans la vasque de l'autofiction quand on fait l'autobiographie. Et au fond, je me suis dit, en faisant ce texte, vers la fin, je suis en train de me justifier. Je justifie le fait que je suis en train d'écrire mon autobiographie depuis 4-5 ans, puis qui va sortir probablement dans 2 ans. Et puis, je l'ai vu juste à la fin. Que c'était une auto-justification de mon autobiographie.
Il me semble qu'il y a ça dans ton évocation du futur antérieur, etc., qui, me semble, est aussi forcément lié à la conscience de l'autobiographie, puisque c'est des futurs du passé, des futurs qui nous restent.
L'autobiographie a besoin d'une justification.
Mais ici,
Jean-Pierre Vallotton, donc.
Oui, mais peut-être pas dans chez vous, mais ici, et même en France, c'est très mal vu, c'est très décrié, c'est très critiqué. Ben, je m'en fous là, mais c'est beaucoup. Je m'en fous pas tant que ça, c'est pas vrai.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens de la Star Academy il y a 25 ans.
Oui.
C'est ridicule, on est bien d'accord.
Oui.
De la part d'un écrivain comme vous.
Non, je sais, mais il reste que je suis, comme plusieurs, je pense, très sensible, très fragile, vulnérable à la critique. Je me suis aperçue, en écrivant mon texte, que j'étais en train de faire une auto-justification de mon autobiographie. C'est parce que je suis une personne, au fond, vulnérable. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui le font toute leur vie. Michel Léris, le merveilleux, lui, ben, peut-être qu'il s'est senti, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement.
J'ai l'impression qu'il dit tout, hein, mais bon.
Je le sais, mais on ne dit jamais tout. Ouais, on ne dit jamais tout dans une autobiographie. C'est... On choisit, oui. Qu'est-ce que vous...
Denise?
Oui, Roger Laporte, qui est malheureusement disparu.
Monique Proulx,
oui. Des justifications de sa propre vie
aussi.
Surtout ça, donc ils n'ont pas besoin d'auto-justifier leur écriture parce que dans le fond, C'est comme si essayer de donner une validité ou une crédibilité à cette espèce de passage qu'on sent un peu évanescent tous les jours de notre propre vie. Moi, ce que j'ai trouvé bouleversant dans ton texte, d'abord, j'adore ta voix. J'adore cette voix un peu éraillée que tu vois depuis toujours.
Une voix fatiguée.
Non, mais c'est une voix d'une richesse incroyable. Il y a une prise dramatique très, très forte. Je suis très sensible au son. Et ce passage, entre autres, sur la maternité, où j'ai senti les mères autour de la table s'amollir, les yeux s'embrumer. Et je me suis dit, moi qui n'ai pas eu d'enfant, je me suis dit sans doute que la maternité apporte une sorte d'espoir inconditionnel, parce que c'est quand même, les mères ont généré du futur, je veux dire, savent ce que c'est que la fabrication du futur. Il me semble que quand tu sais ce qu'est la fabrication du futur, on peut dire ça d'un livre, mais jamais de façon aussi tangible, je pense, qu'un corps en train de se former dans ton ventre. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose dans l'esprit qui est à jamais différent, et que peut-être la désespérance n'existe pas pour les mères. Enfin, la différence totale.
Non, mais j'allais dire que la pulsion de mort est très grande dans la pulsion de vie. Alors, quand on est mère ou qu'on porte un enfant, au contraire, on est si près de la mort, on est plus près parce que il y a quelque chose qui nous échappe de la vie complètement. On ne contrôle pas la fabrication de l'être. On ne fait que le porter. Alors,
Mais l'infanticide des mères jusqu'au 19e siècle n'a pas été criminalisé, tellement c'était compris, entendu, qu'une mère pouvait détester et tuer son enfant. C'est incroyable. Enfin, pour moi, là, mais pour nous qui aimons en partant. Mais c'est possible, c'est tellement possible que c'est devenu crime. Je pense que c'est Foucault qui le dit, seulement au 20e siècle. L'infanticide des mères, c'est intéressant. Comme si ce que tu appelles, c'est vrai, la jonction, presque, c'est ça, la mixtion de la pulsion de mort et de la pulsion de vie quand tu portes un enfant. Parce que de toute façon, quand tu portes un enfant, tu sais que, ça c'est Durance qui disait ça, tu vas donner la vie à quelqu'un qui va mourir. C'était donc aussi d'une certaine façon dans la mort, oui. Mais aussi, je crois, puis c'est un peu ce que je dis dans mon texte, puis je savais pas que je dirais ça avant de l'écrire non plus, c'est que quand on fabrique du futur dans son corps même, il y a comme un espoir incroyable. On est dans le sublime. On va mettre de la vie au monde, c'est quand même étonnant.
Juste une petite remarque technique, si vous voulez me laisser le temps de vous donner le droit de parole, c'est pas une question d'autorité, c'est une question qu'on est à la radio aussi, sur Internet, et qu'il faut que je vous identifie pour que les auditeurs sachent de qui parle. Alors, donc, il y a eu Monique Proulx, Diane Régimbal, et là, maintenant, après Madeleine, Antonio D'Alfonso.
Merci, Madeleine. J'aimerais vous voyez, même je t'attends depuis 30 ans. J'ai beaucoup aimé l'image de hors-temps de l'infinitif. Tu parlais de censure pendant que tu écris l'autobiographie, l'autofiction. Pourquoi?
Parce que, c'est parce que c'est mal vu, que je suis vulnérable aux critiques nombreuses.
Aujourd'hui, ça. La censure vis-à-vis de toi.
De moi-même. Ouais, ça c'est plus... C'est parce que quand on fait l'autre, on choisit forcément, et puis on élimine forcément. Il y a des choses que j'ai éliminées, mais ça tous les autobiographes le diront probablement, parce qu'il y a des vivants que je ne veux pas blesser. Parce que si je racontais des choses, ce serait terrible. Il y en a qui... Oui. Donc, je fais un... Pour certaines personnes qui qui ont été très proches de moi et que je n'aime pas du tout, ce serait épouvantable. Donc, je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de me censurer par amour de l'humanité parce qu'ils pourraient aller se suicider, ces gens-là. Tellement je dirais des choses affreuses. Donc, ces choses-là épouvantables, je ne peux que les transposer dans la fiction. Puis là, la plupart des gens ne peuvent pas se reconnaître. C'est pour ça que j'ai supposément une écriture difficile. Parce que c'est très, très, très... Transposé. Dans la fiction. Mais mon autobiographie et ce que j'ai dû abandonner dedans me donne plein de sujets pour des prochains romans. Plein, j'en ai plein. J'ai hâte d'avoir fini l'autobiographie. Oui, pour pouvoir régler mes comptes, mais c'est ça. Parce que ceux que je n'aime pas, qui m'ont fait mal et qui sont épouvantables, qui furent épouvantables, ils ne me lisent pas de toute façon. Mais ils me liraient s'ils savaient que je parle d'eux dans leur autobiographie. Ils me traîneraient devant les tribunaux.
Denise, de Zotel.
Oui, moi, je veux juste comprendre, Madeleine, parce que au début, tu as hésité entre autobiographie et autofiction. Et pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Tu parles vraiment... Comme je travaille un tout petit peu l'autofiction, le mot fiction, pour moi, met à distance des choses métamorphoses. J'ai l'impression que l'écriture, je me sers d'une matière intime, parce que c'est celle que je connais le mieux, comme je dis, mais pour en faire quelque chose qui rejoint tout le monde. Donc, libérer de ce qui est de l'ordre du trop privé, disons. Et en ce sens-là, pour moi, il y a une différence entre autobiographie et autofiction. Mais toi, tu as l'air de confondre les deux. Es-tu vraiment,
oui,
en ce moment, en train d'écrire au jeu avec les prénoms, oui, le désir d'être dans la vérité de l'événement?
Oui, mais je suis quand même dans la fiction. Et comme disait Lacan, il y a une structure de vérité dans la fiction. Oui. Il ne faut pas croire que la vérité, c'est ce qu'on appelle l'authenticité ou coller au réel... Comme un écrivain ou un photographe réaliste ou un peintre de la représentation. Mais je suis dans la fiction à partir du moment où je choisis, où je transpose un peu dans l'autobiographie aussi. C'est une vérité traversée de fiction aussi. C'est ma façon, à moi, de voir... Mon enfance, mon écriture, mes parents, mes ancêtres, moi, tout ça, c'est quand même moi avec mon regard fictif. C'est pas pur, l'autobiographie. Je me souviens d'une discussion tellement épouvantable qu'on avait eue au Salon du Livre de Montréal sur une table ronde. Il y avait Jean Godbout, puis le frère un tel... qui était nul. C'est pas parce qu'il est mort, mais il était nul. Et puis Godbout, puis moi, ça en est presque pris aux cheveux, parce que Godbout défendait que... Mais là, il n'est pas là. Donc, il ne faut pas que je parle... Il n'est pas là pour se défendre. Mais moi, je disais que dans toute autobiographie, il y a de la fiction aussi. Il ne faut pas croire. Puis le frère Untel disait, quand moi j'écris le matin, j'ai vu un boulot par la fenêtre, c'est le boulot que j'ai vu. Oui, mais... Tu n'as pas parlé de l'érable à côté.
Maria Clélia Cardone, elle m'a demandé la parole.
Je vais parler du présent comme prison. Bien. Alors, je me demandais, on doit chercher de se délivrer de cette prison à travers le rêve du futur ou à travers l'écriture gravée du passé, comme vous avez dit, ou bien vous pensez qu'il soit mieux travailler sur le présent, et en quelle manière?
Je pense que je n'ai pas écrit que le présent était une prison. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai repris la phrase qui est donnée dans le programme des organisateurs de la rencontre, qui a été dite par les automatistes dans Refus global. qu'il fallait se libérer du passé et du présent qui étaient des entraves et des prisons pour faire tabula rasa et entrer dans le futur. Et j'ai dit même le contraire de ça, que si on se libère, si on assassine le passé et le présent, on fait du présent une prison pour des sujets qui deviennent complètement aliénés, privés de sens, d'orientation. C'est le contraire. J'ai pas dit que le présent est une prison. Il en devient une si on décide d'assassiner le passé. Ouais. Si on décide d'assassiner le passé et de faire tabula rasa, puis d'être dans l'illusion qu'on va créer du futur pur.
Parce que quand on va faire tabula rasa du passé?
Non.
Non.
Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je parle qu'il faut cultiver le désir d'archive, mais l'expression n'est pas de moi, c'est le titre d'un livre d'une ethnologue française dont j'oublie le nom, Le désir d'archive. Je trouve ça tellement beau. C'est pas juste l'intelligence de l'archive, c'est le désir d'archive. Oh non, au contraire.
Alors, Éric Clémence?
Vous avez parfaitement raison de considérer, me semble-t-il, un peu l'inverse de ce que vous avez dit, c'est-à-dire la structure de fiction de toute vérité.
Oui.
Et pas la structure de vérité. Enfin, peu importe là-dessus. Oui. Mais je pense que ça va tout à fait... d'autant plus que la force de votre écriture sert cette structure, cette force de vérité de la fiction. Et il y a quelque chose qui m'a profondément frappé, que vous avez d'ailleurs déjà relevé dans votre texte, et qui m'apparaît presque une illumination. Ce serait que l'infinitif serait le temps du futur.
Oui.
Et parce qu'après tout, si je dis le verbe exister, eh bien, il installe automatiquement, enfin il installe, il fait plus que ça, il appelle une durée, un appel justement, il force un appel et une durée qui est le seul gage du futur. Donc voilà, je vous remerciais de cette illumination que justement la structure de fiction de la vérité soi-disant personnel, oui. Il n'y a pas d'auto, donc il n'y a pas de danger qu'il n'y ait jamais une autobiographie.
Ça, oui.
C'est strictement impossible.
Puis je voulais poursuivre aussi avec l'infinitif et l'infini, mais là j'étais partie, ça aurait été trop long.
Non,
non, allez-y. Non,
c'est très long en effet.
Oui. Alors pourquoi l'avez-vous appelé le hors-temps?
Le hors-temps de conjugaison.
Ah oui, d'accord, uniquement grammaticalement.
Mais plus que ça, je pense, le hors-temps de l'infini, le hors-temps de ce qu'on a appelé l'éternité et de l'infini. Mais ça commence par le hors-temps de la conjugaison, c'est très concret. Je veux dire que la langue a traduit de façon très concrète. La langue française, en tout cas, je ne connais pas toutes les langues, mais plusieurs langues, là, j'y pense, ont traduit avec l'infinitif le temps de l'infini, l'infini du temps.
Alors, il y a trois personnes qui ont demandé la parole. Hélène Dorion, Jacques Kegan et Evelyne Lachenelière. Alors, Hélène Dorion.
Je suis très touchée par ton texte et ça ouvre beaucoup de dimensions. Je pensais aussi, en l'écoutant, à la conférence inaugurale de Monique hier. Bien sûr, au début, mais je pense de façon très différente. Par exemple, dans cette vision du temps avec l'infinitif qui clôt la temporalité. Je pensais au temps circulaire de Monique hier. C'est un peu dans cette même perspective. dans ton travail, il y avait aussi le rêve par rapport à la créativité chez Monique hier, qui ouvrait une dimension sociale dans ton travail, dans ton œuvre. On a parlé d'autobiographie, de ton travail d'écriture. Ton œuvre, j'entends aussi tout ce que tu as fait et tout ce que tu as apporté. Pierre l'évoquait dans sa présentation, cette prise de parole, tout ce que ça a ouvert dans la littérature québécoise, dans la littérature en général aussi. Je me demandais, en espérant que la question ne soit pas trop vaste, comment aujourd'hui tu verrais l'incarnation du rêve dans ce tissu social, dans cette dimension humaine un peu plus autre, disons, que celle plus individuelle? Est-ce que tu as aujourd'hui une perception sociale, j'imagine, qui a bien changé? Elle serait où et comment incarner aujourd'hui ce rêve dont tu parles?
Ben, ça serait difficile à faire une synthèse, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui rêvent le monde autrement. Il y en a plusieurs, on peut les nommer. Mais je commencerai par... Bon, il y a les environnementalistes, il y a les écolos, il y a les psychanalystes, il y a les philosophes, il y a tellement de gens qui travaillent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit juste les cons à la télé, ou presque juste les... Et qu'on est pris dans des scandales ici, vous n'avez aucune idée, c'est tellement affreux la politique au Québec et au Canada, c'est tellement déprimant, mais on ne voit pas les forces vives au travail. Mais elles existent. Puis il y a tellement d'avenues que tout le monde ici pourrait en parler.
Et tu vois quoi, la possibilité d'incarner le rêve encore dans ce...
Moi, c'est avec l'écriture, c'est mon moyen à moi. Mais il y en a, c'est avec la peinture, d'autres, c'est du côté des philosophes. Ben, je les renomme. Tous ceux-là qui travaillent, les ethnologues, moi, j'ai une amie là, qui est en train de mettre sur pied un programme de formation radiophonique pour les Inuits. Les Inuits, c'est les Indiens de la Basse-Côte-Nord du Québec, les anciens montagnais. Ben, c'est pas rien, c'est une aile, c'est ça. C'est une petite avenue. Ils réapprennent leur langue. Il y a une Inou qui est allée faire un doctorat au Sud, c'est-à-dire à l'Université Laval, en linguistique, qui va mettre sur pied la première, le premier dictionnaire et la première grammaire d'Inou. Je ne sais pas si tu savais, Jean-Claude. Oui, parce que Jean-Claude est un linguiste.
Jean-Claude Corbeil.
Jean-Claude Corbeil. Alors, bon, c'est une façon de vivre aussi, d'ouvrir des voies vitales, mais je ne sais pas plus que vous.
Jacques Kagan.
Oui, je vais commencer par une parenthèse. Si la politique canadienne vous déprime, venez faire un petit tour en Belgique. Ça va vous mettre d'aplomb. Je vous le promets. Deuxième petite parenthèse, parce qu'il en a été question, mais de manière un petit peu latente. Je voudrais rappeler... C'est une chose qui est effectivement assez rare et qu'on connaît très peu, mais que la langue française a un infinitif futur. Ça existe. Donc, nous pouvons penser à un infinitif futur. Et puis, je voudrais interpeller Madeleine Gagnon sur ce qu'elle a dit. Il y a quelque chose qui m'a un peu frappé dans ses formulations. Vous avez dit que quand vous avez commencé à envisager le futur en préparant votre conférence, que vous étiez dans le noir. Et puis que c'est un rêve nocturne qui vous a libéré. Or, un rêve nocturne, c'est dans le noir aussi.
Ah oui.
Est-ce que on parlait d'autofiction, d'autobiographie, de tout ce que vous... Là, vous rendez-vous compte qu'on était dans la couleur de l'encre, en fait?
Ah, c'est intéressant. Oui, c'est bien ce que vous dites. C'est... Oui, oui. Mais la nuit, elle est importante. Les rêves de nuit sont très importants. Puis le noir, ben, c'est une image quand je dis j'étais dans le noir, c'est que je savais pas trop comment. Oui, c'est une belle image.
Vous avez cité Lacan, donc ce n'est pas tout à fait
j'ai
innocent.
J'ai cité Lacan. Et puis, ça me fait penser ce que vous dites aussi à un film qui a été fait ici. Je crois que c'est le seul film de Louis Portugais qui a été un des fondateurs de l'ONF. Et il a fait un film complètement sur écran noir. C'est tout. Il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. C'était l'écran noir. Puis les gens lui ont demandé, mais pourquoi t'as fait ça? Mais il dit, j'ai voulu filmer la parole. C'était pour continuer.
Bon, alors là, Evelyne Lachenelière, ensuite Mauricio Sécura et j'interprète.
Je voulais vous remercier à mon tour d'avoir pour nous, par l'écriture, justement, scruté un peu ce que vous avez nommé l'impensable du temps. Merci aussi d'avoir ressuscité ce jeune homme du train. Puis ce qui m'a profondément bouleversé puis ouvert des perspectives, je dirais presque nouvelles, c'est que on va, je trouve, plus facilement ou plus automatiquement associer l'acte d'écrire à un besoin de combler ses insuffisances, à un refus des choses telles qu'elles sont. On va souvent associer l'écriture à cette posture-là par rapport à l'existence, mais beaucoup plus rarement à une façon de déjouer le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus, à la fois de plus vaste dans cette relation à l'écriture, dans ce rapport à l'écriture. Puis ce propos-là, accompagné de la façon dont vous avez lu votre texte, appelait à une sorte d'apaisement dans l'acharnement de l'écriture. Je trouvais ça très, très, très beau. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire de ce jeune homme, je ne sais pas, vous l'avez sûrement remarqué vous-même, mais je voulais le souligner, c'est que ce jeune homme-là, on va associer justement le fait de mettre fin à ses jours à une douleur associée au présent qui est insoutenable, ou à une absence de rêve qui est donc l'absence d'un futur rêvé. Mais là, précisément, le jeune homme vous annonçait qu'il allait chercher des photos, donc des archives. Est-ce que c'est dire que son non-désir d'archives a participé aussi dans toute sa relation ambiguë ou trouble au temps? Ce que je veux dire, est-ce que sa relation au passé a été tout aussi déterminante que sa relation au futur, au fait qu'il dise ne pas avoir de futur, pour que le jeune homme se jette du train, finalement?
C'est vrai que c'est intéressant, l'histoire des photos qu'il va chercher. En fait, il y aurait tout une réflexion à faire à partir de ça. Il s'en va chercher des photos, donc des morceaux d'archives, des morceaux de son passé. Mais il affirme, j'y avais pas pensé, là. Il affirme un désir d'archives, de passé, de petits morceaux, de fragments. À partager avec moi, mais en même temps, il affirme ça en allant se jeter en bas du train. Alors, c'est à nous de...
C'est dire combien...
D'élaborer.
Oui, puis c'est rappeler combien... Si on ne s'y arrête pas, ou en tout cas pour ma part, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais je sous-estime l'importance de notre rapport au temps, tant au passé, au présent qu'au futur, dans toutes sortes d'actions déterminantes.
Merci beaucoup. Mauricio Segura.
Et moi aussi, je voulais vous remercier pour ce très beau texte. C'est drôle parce que hier, Monique Proulx disait qu'elle aurait voulu incarner le thème de l'avenir dans un récit. Et là, il y en a eu un récit. J'étais très sensible à ce récit, comme tout le monde. Et ça m'a semblé être comme l'hypothèse de quelque chose d'innommable, c'est-à-dire la suppression de l'avenir, que je préfère à futur, la suppression de, de l'avenir qui se présente. Et dès le début qu'on m'a invité à parler de participer avec vous, c'est une notion extrêmement fuyante, difficile de la, parce qu'on ne peut pas la rattacher à l'expérience, puisque c'est l'avenir, c'est ce qui n'est pas là. Mais avec ce récit, je trouvais vraiment que vous aviez, par la représentation, réussi à nous faire comprendre l'aspect primordial de l'avenir. C'est sans l'avenir, on meurt. Mais ma question, c'est je veux vous ramener, Hélène Dorion, si j'ai bien compris, essayer de vous ramener un peu plus sur le terrain social. Et cette question-là m'intéressait beaucoup. Vous avez dit que, avec raison, aujourd'hui, ce ne sont que les cons qui passent à la télé. Ça m'intéresse particulièrement, cette question-là.
C'est pas très intéressant.
Puisqu'il n'y a que les marges qui rêvent aujourd'hui. D'abord, d'une part, je veux vous entendre un peu. Peut-être que je m'adresse plus à la sociologue ici. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? Je pense que c'est un peu partout comme ça, en Occident du moins. Ce n'est que la marge qui rêve, et nos sociétés s'arrangent pour que ce soit que la marge qui rêve. Et on ne les veut pas en majorité. On veut pas que les artistes, les philosophes rêvent devant nous, devant tout le monde. D'abord, pourquoi ça, ce phénomène? C'est un peu, pour moi, inexplicable, d'une part. Et d'autre part, ça serait quoi notre posture à nous? C'est de se dire, oui, d'accord, nous resterons à jamais dans les marges, nous qui rêvons, qui essayons de rêver.
Ben, d'abord, je suis pas sociologue du tout, c'est pour ça que je veux pas trop me prononcer. Il y a des gens qui font bien le travail, là. Mais c'est pas la marge non plus qui rêve, c'est pas vrai. C'est la marge qui gouverne, puis elle est de droite. Appelons ça comme ça, c'est plus court, là. Elle est de droite un peu partout, elle l'est en France, elle l'est ici, au Québec, elle l'est au Canada, en Belgique, je sais plus trop où ça en est. Mais ouais. Mais il y a énormément de gens qui ont la capacité de rêver, qui vivent, j'en connais beaucoup, vous en connaissez tous. Mais le problème, c'est qu'ils sont à cause du cynisme et puis du lien de confiance qui est rompu entre les gouvernants et le peuple, disons le peuple, c'est plus simple. Ça peut engendrer des fins de rêve, le cynisme. Mais j'en connais beaucoup qui rêvent, qui créent, qui font des choses, des jeunes, des pleins, j'en connais plein. Sauf qu'on les voit pas, c'est pas eux qui dirigent. C'est le contraire de ce que c'est la marge qui dirige. Ils sont très peu nombreux, mais c'est la marge affairiste. Si on pense au gouvernement libéral du Québec, c'est que des affairistes. Il n'y a pas de penseurs, il n'y a pas de poètes, il n'y a pas de linguistes, il n'y a pas de philosophe, il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas d'ethnologue, c'est que l'agent d'affaires. Puis à Ottawa, c'est pas mieux. Je parle de ce qui nous entoure. Mais il y a une jeune fille qui avait déjà fait un texte, Le Québec me tue. Moi, je vais en écrire un depuis longtemps, puis l'envoyer au devoir, c'est Le Québec se tue. Mais je l'enverrai pas, là, mais je vous donne mon titre. Mais j'ai pas plus à dire que tout le monde ici. C'est ça. On fait chacun ce qu'on peut.
Alors, Jean-Pierre Valoton.
Oui, je voulais juste ajouter qu'on vous avait parlé de ce film où l'écran était noir. Ma voisine de droite, Denise Deshôtels, on a tout de suite pensé à Marguerite Duras, qui oui. avait fait la même chose, mais avec un écran gris.
D'ailleurs, je l'avais raconté l'histoire à Duras. Puis elle avait vu le film de Portugais quand elle est venue à Montréal en 80, la Cinémathèque. Oui, et puis elle l'a copié Je filme la... Et puis elle ne l'a pas dit. Oui, elle l'a copié, elle ne l'a pas dit. Puis je lui ai dit à elle. Elle est venue ici en 80, elle a voulu voir le film de Portugais qui disait « Je filme la parole ». Elle l'a copié, je pense, c'est dans Le Navire Net. Ou dans, enfin, bon. Et puis elle dit « Je filme ». Elle dit « Je veux faire un écran parfaitement noir, tata, je ne sais pas si c'est Le Navire Net ou… »
Non, c'est l'homme attentif.
Pardon?
Elle, il y a du texte.
Ben oui, mais c'est, elle copie la phrase de… Puis elle aurait pu, parce que pauvre Portugais, il est mort seul et inconnu, et elle aurait pu au moins dire « Il y a un film de Louis Portugais ».
N'était pas très connu alors pour son talent, bien sûr, mais pas pour sa générosité.
Non, ça c'est ça, ça c'est vrai. Ouais.
Naïm Katin.
Oui, ce que j'ai beaucoup aimé le texte de Madeleine, et elle a parlé de temps et de l'autobiographie, et ce qui a comme conséquence de nous renvoyer chacun à notre autre autobiographie et nos notions de temps. Et moi, je viens d'une autre langue, parce que tu as parlé de français, etc. Je viens d'une autre langue, de deux langues, d'abord arabe et hébraïque, qui sont très proches. C'est dans les langues sémitiques. Et l'avenir, dans ces deux langues-là, le temps est exprimé tout à fait différemment des langues occidentales. C'est-à-dire, il n'y a pas un verbe à l'avenir et ni au passé, il y a le présent. Et à partir de présent, on dit le passé et on dit l'avenir. Et c'est pour ça que moi, quand j'écris des romans sur ma vie, je ne pourrais dire que ce sont des romans. Parce que ce n'est pas de l'autobiographie. Comme écrivain, je ne peux écrire que des romans, je ne peux pas personnellement dire tout ce que j'écris est autobiographique. Donc, il n'y a pas une autobiographie très spécifique. Mais ceci dit, à partir de ces notions de la Bible et du Coran, l'avenir n'est pas simplement un rêve, c'est une promesse. Et c'est une attente. Il y a l'attente et la promesse. Et c'est pour ça que, elle, dans la Bible, est en quelque sorte, et évidemment le christianisme a hérité de ça, mais a transformé. Mais à partir de cette promesse, on parle de l'arrivée de Messie. L'avenir, c'est le Messie, c'est-à-dire un temps autre. L'arrêt de temps et le recommencement de temps. Alors, donc, les temps messianiques, c'est une promesse et une attente. Le rêve ne rentre pas tout à fait là-dedans. C'est pour ça que je voulais dire que, pour moi, quand je parle de l'avenir, du futur, c'est d'un temps messianique qui n'est pas simplement un rêve, mais qui est une attente et une promesse. Et comment on peut décrire ça? Ça, c'est l'écrivain qui, en parlant de lui-même et de présent, il le fait.
Il y en a un qui l'a très bien écrit, c'est Edmond Jabez.
Évidemment, oui.
Le livre des questions, oui, le, oui, bon.
Non, non. Il y a d'autres.
Comment écrire ça, mais
d'abord,
lui...
D'abord, la Bible elle-même. Non, d'abord, commençons par la Bible. Et Edmond Jabez s'est beaucoup inspiré de ça.
Ben oui, de l'écriture, de la Bible, oui. Mm-hmm.
Nathalie Fillion.
Oui, je voulais vous remercier infiniment aussi pour ce texte. Et je voulais juste vous renvoyer tout ce que ça a provoqué... En fait, vous m'avez emmené très loin avec ce train aussi. J'étais renvoyée à je crois que c'est pas le train, quelque chose, c'est par hasard, quoi, ce train, que ce jeune homme ait choisi un train pour sauter du temps. Il y a quelque chose dans le mouvement, j'ai pensé beaucoup aussi à la prose du Transsibérien de Sandra, ce qui m'a beaucoup marquée. Et j'étais comme dans un espace imaginaire aussi, c'est-à-dire que j'étais totalement avec vous. Mais j'étais reliée à d'autres poèmes et à d'autres espaces, à d'autres trains, à d'autres traversées comme ça. Voilà, donc je voulais vous renvoyer ça parce que aussi, vous parlez du rêve, de l'écriture, de, je ne sais pas où on en est tous, mais de cette chose, je crois que le train, on rêve d'être porté aussi, c'est-à-dire que on est en fait immobile, ce rapport entre l'immobilité et le mouvement a quelque chose à voir avec le temps aussi, cette tension entre être immobile, porté, traverser quelque chose. Ben, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup fait voyager.
Mais c'est vrai que le transsibérien, c'est un de mes rêves de le prendre, a quelque chose à voir avec le transcanadien. C'est de Halifax à Vancouver, quand même. C'est, je veux le faire un jour.
Je viens
le faire
avec vous.
Oui, bon, on pourrait le faire et puis écrire.
Voilà.
Écrire sur la traversée de l'espace. Chanceux.
Oui.
Et ce, juste pour faire, parce que c'est la pose du transsibérien de Sandra, c'est en fait est oui. un temps circulaire, on croit pendant tout le début du texte qu'il va vers, qu'il est dans la ligne droite de la ligne. Mais en fait, c'est un temps circulaire.
L'espace est en ligne droite, c'est ça, mais le temps est circulaire.
Oui.
On pense bien le temps quand les espaces sont traversés. C'est intéressant. On pourrait écrire sur le temps et l'espace, soit dans le transsibérien ou dans le transcanadien. On tirera pile ou face. Puis on fera un livre.
Oui, tu peux.
Merci, Madeleine, de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait prendre le train avec toi. J'étais très touchée par cette histoire-là, du suicide du jeune homme, et ça me rappelait le deuil du soleil, un très beau récit de Madeleine Gagnon que j'ai lu pour ma part plusieurs fois, où il y a aussi un jeune homme qui se suicide. Alors, c'est un récit, justement, sur la mort, sur le deuil, et c'est quand même un de tes thèmes. Je trouve que ce que tu disais sur le fait que, après la mort du jeune homme, cette histoire-là est entrée pour toi dans un trou noir, si j'ai bien compris, ou je donne peut-être ma propre interprétation de ce que j'ai entendu, me fait penser que effectivement il faut qu'il y ait du futur pour avoir un passé et pour qu'on se souvienne, et qu'effectivement quand il n'y a plus de futur, le passé n'existe plus. Évidemment, on ne peut pas calquer l'histoire individuelle et l'histoire collective, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en relation avec la phrase que tu as dit. Le Québec se tue. Alors voilà, donc on en est toujours là et on se rend compte actuellement qu'il n'y a plus de passé non plus, parce que peut-être il n'y a plus de futur. Je ne sais pas si tu veux.
Alors, une chose qu'on sait, c'est qu'on assassine le passé ici. Ceux qui vivent ici le savent. Il n'y a plus de cours d'histoire dans les écoles. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de... On a enfanté, mais là, je veux pas tomber dans les clichés que les jeunes ne savent plus rien, c'est pas ça, là. Mais il y a une génération qui ne sait plus ce qui s'est passé avant et qui pense que ce qui s'est passé avant est inintéressant. Moi, j'étais allée donner un cours à Rimouski comme écrivaine invitée il y a 4 ou 5 ans, et puis c'est juste pour donner un exemple. C'est un jeune homme qui vient à mon bureau. Lui voulait faire de la chanson. Puis moi, je faisais un atelier de poésie. Il n'y a pas, aucun problème. Pour moi, ça peut être de la chanson. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire de la chanson, ça va aussi. Là, il parlait pour les travaux dans mon cours. Bon. Et je lui dis, est-ce que tu connais... Il voulait écrire des chansons puis faire des musiques. Donc, auteur-compositeur, j'ai dit, est-ce que tu en connais des grands auteurs de chansons? Ben, il y avait sa gang de chums. Il dit, à ma gang de copains, on en fait des très belles. Puis là, je lui en ai nommé certains. Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Richard Desjardins, et puis j'ai osé nommer Rezvani. Il dit, c'est qui ça? Bon, alors j'ai dit, c'est un vieux monsieur, il a dans 70 ans. Il dit, ça m'intéresse pas. Les vieux, ça m'intéresse pas. Il dit, nous, on veut des jeunes parce que les jeunes, on renouvelle. Bon, toute l'idéologie d'un parti politique ici qui s'appelle l'ADQ, parce qu'il y a des jeunes, on va penser le monde autrement. Bon, j'étais tellement... Et ça, c'est un exemple, et on entend ça souvent maintenant. Souvent. Puis je lui disais, mais est-ce que tu imagines, quand Rimbaud a écrit sa poésie, tu le trouves vieux, hein? Ben, il était plus jeune que toi. Et puis dans le temps, il était plus jeune aussi. Le 19e siècle, c'est plus jeune que le 21e. C'est beaucoup plus jeune dans l'histoire. Tu devrais commencer à lire les poètes du Moyen-Âge, donc qui sont très jeunes. Là, je les... Mais bon, c'est juste un exemple pour dire, t'as raison, on est en train, mais il y en a beaucoup qui résistent. Sauf que la tentative de la droite inculte qui fait les programmes au ministère de l'Éducation, les programmes scolaires, c'est d'anéantir le passé. C'est affreux, mais heureusement, il y a des gens qui résistent, qui disent non.
J'ai encore au moins 3 personnes qui ont demandé la parole. Je pense qu'il comme il reste peu de temps. Je vais donner la parole à Nathalie Watten, d'abord.
Oui, merci à mon tour. Je te dis avec beaucoup de gratitude pour ce très beau texte où tu passes par la fiction pour livrer des événements à caractère biographique, mais c'est pour dire consentement à ce qui a été, à ce qui est, et à la finitude aussi. Je vois le lien avec la conférence d'hier en cela. Monique Proulx disait prendre le temps de penser, prendre le temps de méditer. Toi, tu dis prendre le temps de rêver pour élaborer du sens. C'est très juste, élaborer du sens de la subjectivité du futur à travers tous ces rapports complexes qui se nouent dans l'écriture. Peut-être une précision avant de te poser une question plus personnelle. Louis Portugais a réalisé un film aussi qui est Saint-Denis Garneau et le paysage en 60. C'était sur un scénario d'Anne Hébert, justement.
C'est vrai. Après.
Alors, d'une part, puis tout à l'heure, tu disais « Je n'ai que le titre, c'est le Québec qui se tue », avec ce que tu viens de dire. Je pense que tu aurais aussi le sujet de ton article. Je voudrais revenir sur ce jeune homme dans le train. Alors, ce sens que tu libères aujourd'hui, qui est dans ton passé, que tu libères comme au futur antérieur, a eu certainement une influence sur ton devenir, d'abord comme jeune femme qui était attirée par cet homme-là, parce qu'il cherchait à parler avec toi, mais aussi sur l'écrivaine que tu es, qui parle beaucoup de la mort, comme le disait justement Louise, et du deuil. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il me semble que tu es silencieuse là-dessus, c'est comment, sur la jeune fille que tu as été, ce non-sens, ce non-futur a influencé ton futur à toi. Comment ce non-futur a été comme première pierre à l'édifice de ton engagement sur la non-lumière et la lumière. Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Je pense que je l'ai écrit souvent, puis beaucoup, autrement. Entre autres, comme le disait Louise dans Le deuil du soleil, mais c'est à peu près dans tous mes livres.
Oui.
La mort est présente, et elle est non seulement présente, mais elle est, comment on dirait ça, le cœur qui fait battre, qui bat, qui fait vivre tout le reste. La mort, elle est là depuis le début.
La question que je te pose très concrètement, c'est comment, après ce qui s'est passé dans le train, qu'est-ce que ça a créé comme bouleversement dans les jours, les mois, après, est-ce que tu étais très choquée par ça?
Oui, je l'étais.
Oui.
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 Mais je ne me souviens pas avoir fait de grosses réactions ni de dépression. J'étais dans la vie, j'étudiais, ça m'a marqué, c'est resté bien sûr. Il y a des traces un peu partout dans l'écriture, mais je peux pas dire que j'ai pas fait là un gros tout. J'étais en état de choc, c'est sûr. Mais je suis passée vite à autre chose aussi. Sauf que c'est resté. C'est toujours resté. Ça va toujours rester. Mais pas tout le temps, mais ça va toujours être là. Toujours avoir été.
Denise Desautels.
Je tourne aussi autour de la même histoire. J'y reviens sans cesse. Depuis tout à l'heure, j'entends tout le monde et on est saisi par ce récit. Et je reviens à ce qu'Éline a dit tout à l'heure. Merci d'avoir ressuscité ce jeune homme du train. Et ça a fait son chemin en moi. Et je me suis demandé si ce jeune homme, juste avant d'en finir, alors que lui-même probablement savait qu'il allait en finir, ne t'a pas choisi d'une certaine manière pour se donner un futur de fiction, comme s'il avait deviné, en fait, pressenti. Okay. Et en ce sens-là, ben, je souhaite que le Québec te rencontre, te raconte dans un train.
C'est très bien.
Jörg Richman.
Et il y a une autre dimension du temps auquel, par exemple, les Grecs anciens étaient très sensibles et qu'on nomme en fait avec un mot grec, c'est le kairos. C'est la fenêtre des possibilités qui s'ouvre à un moment donné et qui peuvent se refermer juste un moment après. Et donc, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu agir décisivement, mais après, la fenêtre se referme. Et ça apparaît aussi dans votre récit à propos de ce jeune homme, quand vous reprochez rétrospectivement, je n'ai pas su entendre, et avec cette différence aussi entre le silence et le muet que vous faisiez. Et cette dimension, le kairos, c'est une espèce du temps présent. Et je me demande, hier on évoquait, et aussi on l'a fait à un moment donné, on évoquait cet état d'impuissance collective, les gens sont muets collectivement, si vous voulez. Et vous avez évoqué aussi le cynisme, l'état d'esprit cynique, cynique dans le sens moderne. Pas, oui. À nouveau, comme le cynisme ancien, c'était toute une autre chose. Et est-ce que une des dimensions de cette impuissance n'est pas notre faute d'attention au kairos, on n'est pas attentif aux possibilités de l'instant parce qu'on n'a pas tellement à l'esprit le kairos.
Mais c'est aussi parce que plus jeune, on a moins, comment je dirais, on a moins d'expériences qui nous permettent d'être à l'écoute. D'être à l'écoute du silence, puis de faire la différence entre le silence et le mutisme. Mais c'est pas un reproche que je me fais. C'est pas un reproche, mais je dis, bon, j'aurais pu, c'est sûr, mais j'aurais pu plus tard. C'est sûr que si je rencontrais le même jeune homme aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, la vie, etc., bon, qui m'a formée, je saurais mieux écouter. Je saurais mieux écouter, y compris à travers son mutisme, mais je ne l'aurais pas empêché, peut-être. Ben, je ne l'aurais pas empêché de se jeter du train non plus. Parce que rien ne laissait prévoir, mais peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais lire des signes. Il avait l'air heureux, il avait l'air bien, moi. Hein? J'étais quand même pas. Mais même si j'avais lu les signes, je ne l'aurais pas attaché. Mais j'aurais peut-être pu lui parler autrement, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas un reproche, c'est juste un manque d'expérience, de l'écoute de l'autre. Est-ce que, je ne sais pas si je réponds bien. Peut-être que Georges, tu répondrais comme mieux. Parce qu'il connaît bien les Grecs, Georges. Ouais.
Bon, il y avait deux autres demandes. Il faudrait que ce soit très bref, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Anne-Hélène, non?
C'est une association, mais je lui dirai tout à l'heure. On a pas mal associé sur le récit.
Oui, bon, de toute façon, on pourra y revenir. Il y avait aussi Diane Régimbal.
Je sais pas si je voulais juste, justement, en lien avec ce que Denise et Audrey viennent de dire, moi, j'ai eu l'impression d'une suspension du temps. Et que ce jeune homme... te disant, je m'en vais chercher des photos, je veux vous montrer des photos. C'est un peu comme s'il y avait eu un arrêt sur l'image et que c'est, il avait trouvé la mort dans le paysage, qu'il avait été happé et que on ne sait pas du tout. Il savait peut-être même pas qu'il s'en allait vers sa mort au moment où il t'a quitté. Et ça, je trouve ça très intéressant, comment, justement, tu ne pouvais rien y faire et que peut-être aujourd'hui non plus, même avec une écoute, on ne sait jamais ce moment-là où on décide d'être happé par quelque chose, comme, je reviens à ton feu vert qui devient comme un espace de passage, mais que tout peut se refermer toujours, alors... Donc, il y a cette suspension du temps qui vient faire cet arrêt-là sur le paysage et cette mort qu'on voit toujours dans le paysage aussi, comme si c'était le temps se figeait. Voilà.
Alors, merci. Merci pour vos interventions et merci surtout à Madeleine d'avoir ouvert d'une façon si superbe, si magnifique cette... ce voyage dans l'infinitif, cette ouverture, donc. Alors, on est attendu à midi pour le repas et on reprend à 14h pour une séance qui nous réunira Jean-Pierre Valoton, Anne-Hélène Clich et Nathalie Filion. Louise, on reporte. Bon, alors, il y aura peut-être une annonce de Louise plus tard au début de la séance de l'après-midi. On va laisser le suspense. Merci. Moi, je...